Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et nous sommes mercredi et comme chaque semaine, on se retrouve pour passer une petite heure ensemble afin d'aborder un large spectre de sujets qui touchent à la gestion de votre patrimoine. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, c'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va parler des conseillers en gestion de patrimoine, ces fameux CGP qu'on évoque assez souvent. On accueille pour ce faire Hélène Lamont. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneurs. Et on va se pencher justement sur cette profession, savoir un petit peu comment elle vit, quels sont ses enjeux, comment elle répond finalement aux problématiques d'épargne et de gestion de patrimoine des clients. Des épargnants français. D'abord, comment est-ce qu'elle a évolué un petit peu ces dernières années, cette profession, si on regarde un peu en termes de pratiques, en termes de services? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, enfin, notamment par exemple le digital, mais on va y revenir. Enfin, qu'est-ce que vous retenez le plus?
Alors effectivement, nous on le voit bien, parce que CGP Entrepreneurs, c'est un peu plus de 10 ans d'ancienneté aujourd'hui, et on voit que sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment liées à la réglementation. On a eu MIF 1, MIF 2, MIF 3, DDA. Et effectivement, cette réglementation, c'est la protection des consommateurs, des clients. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui a fait évoluer beaucoup les pratiques des CGP. Alors, c'est vrai avec beaucoup d'administratifs, mais c'est vrai que pour les clients, c'est quand même bien, bien mieux d'avoir tous ces documents d'avant-vente. Alors, des acronymes, hein, ce qu'on appelle le document d'entrée en relation, le rapport de conseil, la lettre de mission. C'est beaucoup de documentation, beaucoup de réglementation, et c'est ça qui a fait évoluer un peu les pratiques des CGP sur les 10 dernières années.
Alors, si on regarde un petit peu la période actuelle, c'est vrai qu'on a un contexte économique, on a parlé beaucoup d'inflation, de baisse de taux, etc. Donc il y a pas mal de mouvements, il y a quelques incertitudes qui planent à gauche, à droite. Et puis surtout, il y a cette évolution, alors qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit réglementaire. Du coup, il y a énormément de défis, j'imagine, pour nos CGP.
C'est effectivement très, très complexe pour les CGP aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment sur tous les terrains, à la fois les terrains internes, je vais dire, à leur métier, on le disait tout à l'heure, la réglementation notamment, mais aussi externe, pour pouvoir bien conseiller les clients. Alors, on parle d'inflation, hausse puis baisse de taux, mais aussi modification de gouvernement, modification fiscale, modification sociale avec les retraites. Donc ça donne une grande complexité, mais ça redonne aussi tout le cœur de l'intérêt d'avoir un conseil en gestion de patrimoine, puisqu'il va être au cœur de tous ces dispositifs, il va bien les appréhender et il va vraiment pouvoir faire un conseil personnalisé au client. Puisque parfois le client va s'y perdre un peu, mais il n'est pas concerné par tous les sujets. Donc c'est le CGP qui, en fonction de la connaissance qu'il va avoir, va pouvoir donner les bons conseils.
Alors, vous avez parlé de la réglementation. Ça, c'est vrai que c'est important, même si c'est parfois un peu éloigné ou abscons pour le client. Malgré tout, il y a aussi, je vous le disais, le digital qui a pas mal changé les choses. Alors, ça nous a semblé presque naturel pendant les différents confinements, parce que de toute façon, on a joué au maître d'école, on a joué au banquier. Alors, on pouvait bien aussi demander à son CGP de s'y mettre, finalement, à la visio, au Teams et autres Zoom. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est à la fois compliqué et aussi à la fois une vraie chance pour le CGP, non? C'est-à-dire qu'il a de l'assistance et il peut passer finalement peut-être plus de temps avec son client, non?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, il faut faire quand même très attention à la fracture numérique. On l'oublie parfois parce qu'on pense beaucoup aux millennials aujourd'hui qui placent leur argent. Néanmoins, ceux qui ont le plus d'argent à placer dans la gestion de patrimoine, c'est quand même plutôt les seniors et les seniors plus, hein, et qui ne sont toujours pas forcément habitués au digital. On trouve que la signature électronique, c'est très très bien, mais au final, est-ce qu'on lit vraiment les documents aujourd'hui alors qu'on prenait le temps de les lire avant avec son CGP? Je ne veux pas du tout dire que le digital, c'est pas bien, bien au contraire. Ça facilite énormément la vie, mais attention, il y a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui ont encore besoin de l'accompagnement humain, qui ne peuvent pas faire de Teams et de visioconférence pour parler de leur sujet, de leur famille, de leurs enfants, de leur divorce, parfois des successions. On a besoin d'une grande intimité dans le métier de la gestion de patrimoine. Et ça reste quand même des rendez-vous qui doivent se faire en face à face. Donc oui, ça facilite la vie. Oui, ça permet aussi de mieux personnaliser le conseil, puisque le CGP, avec toutes les données qu'il va avoir, va pouvoir donner une très forte personnalisation du conseil aux épargnants. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très demandé aujourd'hui. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier que la technologie, ça permet aussi de sécuriser les données du client. Hein, avant...
Enfin, c'est quand même hyper pratique. Enfin, je veux dire, effectivement, même pour ceux qui ne sont pas les deux doigts branchés dans le smartphone en permanence, c'est quand même aussi assez intéressant, à partir du moment où on a un accès sécurisé, de se dire au moins tous mes documents, ils sont là, pas être obligé d'aller chercher au fin fond du Xème tiroir ou Xème carton le contrat d'assurance vie qu'hélas, on a mal dépoussiéré depuis 10 ans.
C'est sûr, et les CGP, on le voit aujourd'hui, hein, l'AMF les oblige à faire des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les informations sur leurs clients, ils doivent les garder de manière sécurisée, et notamment, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'inondations, d'incendies, eh bien, le fait d'avoir cette technologie aujourd'hui permet de sécuriser les données du client, hein, qu'elles ne partent pas en incendie, en inondation, avec tous les dossiers qui étaient, vous savez, à l'époque, un peu les dossiers suspendus.
Oui, bien sûr.
et voilà, la technologie, ça sécurise aussi beaucoup les clients.
Alors justement, vous avez beaucoup prononcé le mot de client, ces épargnants, qu'est-ce qu'ils attendent justement? J'imagine que les CGP avec lesquels vous bossez, etc., ils vous remontent aussi beaucoup. Qu'est-ce que le client aujourd'hui attend de son CGP?
Alors le client, ce qu'il attend, c'est une forte personnalisation du conseil. Le CGP, et c'est aussi pour ça que les clients aisés, j'entends, ont beaucoup quitté les banques privées ces dernières années pour aller sur le marché du CGP, qui est un marché extrêmement dynamique, parce qu'il veut avoir vraiment un conseil personnalisé. Un CGP, en moyenne, ça gère à peu près 100-150 familles. Le terme de famille est beaucoup plus important que le terme de client, puisqu'il y a tout l'aspect effectivement intergénérationnel qui est important. Le CGP, il connaît tout de la famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents parfois, les enfants, les petits-enfants. Il y a vraiment un tout dans
le... C'est un peu le médecin de famille, quoi.
Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis un petit peu étonnée d'une chose, c'est qu'on parle aussi dans le monde du CGP de la grande concentration des CGP. Il y a à peu près 5000 CGP. Mais il y en a une vingtaine qui trustent vraiment par des encours à plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. Et moi, je suis pas sûre que ce soit ce que l'épargnant souhaite, parce qu'il a quitté justement les banques privées pour sortir un peu de ces processus complètement standardisés. Il voulait avoir vraiment son CGP qui vienne chez lui, qui l'écoute et avoir un conseil personnalisé. Je crois qu'avant toute chose... il ne faut pas oublier d'écouter le client final qui est celui qui décide.
Alors justement, si on reste très au contact de ses familles, de ses clients, il va falloir aussi être capable de répondre éventuellement à leurs nouvelles attentes. Et on sait qu'il y a une thématique qui revient souvent, c'est un petit peu savoir en fait ce qu'on fait de son argent. Que devient finalement son argent? Et c'est vrai qu'il y a la question de durabilité, d'investissement responsable, tout ça, ça joue énormément et le CGP doit un peu se réinventer face à tout ça.
Alors, le CGP doit se réinventer, je ne suis pas sûre, parce que je pense qu'il a toujours posé beaucoup de questions là-dessus à ses clients, il les connaît très bien. En revanche, il y a une réglementation nouvelle qui va être appliquée en 2024, c'est notamment la loi Industrie Verte, donc... Voilà, le 24 octobre, on va avoir encore des nouveaux process qui vont arriver. Mais le plus important, je crois, déjà pour le CGP, c'est d'être bien formé. Donc là-dessus, il y a une nouvelle certification qui existe. C'est la certification AMF Finance Durable, qui n'est pas encore obligatoire pour l'exercice du métier, mais on pense qu'elle va...
Il va le devenir.
Le devenir, voilà. Donc la première des choses, c'est que le CGP maîtrise bien un certain nombre d'enjeux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes, c'est vrai que la réglementation se cherche beaucoup entre les différents labels. On a parlé d'ESG, on a parlé d'ISR, maintenant on parle de loi Industrie Verte. La réalité, c'est qu'il faut aussi bien écouter ses clients, mais il faut aussi que ce qu'on appelle les producteurs, c'est-à-dire les fournisseurs de produits, soient très clairs dans l'information. Et c'est là où le digital et la technologie viennent aussi en aide au CGP, parce que quand on réalise une allocation d'actifs aujourd'hui, on a posé à son client un certain nombre de questions sur ses préférences en matière de durabilité. Est-ce qu'il a envie effectivement d'investir dans des entreprises qui font des choses pas forcément très claires d'un point de vue de gouvernance ou autre? Et il pose les questions, mais il faut aussi qu'il puisse retrouver dans les différentes allocations d'actifs qu'il va proposer la réalité de savoir si on est sur des entreprises qui vendent des armes, qui font travailler les enfants, qui ne permettent pas d'avoir effectivement une égalité homme-femme parfaite dans le cadre de la gouvernance. Il y a beaucoup, beaucoup de critères sur le sujet. Et donc, je pense que le digital et la technologie va aussi aider les CGP et les clients à respecter justement les desiderata des clients.
C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Alors, vous avez évoqué toute la réglementation, vous évoquez les fournisseurs, l'écoute qu'ils doivent avoir, la clarté qu'ils doivent développer. Et c'est vrai qu'on a une multitude de produits financiers. Enfin, on part de l'assurance vie, et encore là, on va faire un grand résumé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans l'assurance vie. Il y a les différents plans d'épargne, il y a la retraite, il y a les cryptos. Enfin, voilà, on ne manque pas l'immobilier. Il y a énormément de classes d'actifs. Vous avez rappelé le cadre réglementaire et légal, donc il y a aussi des changements réguliers. Et puis là, on voit en pleine formation de gouvernement qu'on ne sait pas très bien ce que la fiscalité va donner ou va devenir. Le CGP, il doit être accro à tout ça pour être capable d'en faire son miel et d'apporter toujours plus quand même de valeur ajoutée. Parce que s'il se contente de faire l'agrégateur, c'est pas très sexy, j'ai envie de dire, pour le client. Donc il faut qu'il apporte une valeur ajoutée, ce CGP.
Oui, il a un travail très important aujourd'hui, pas uniquement comme avant, je vais dire, sur le civil, le fiscal, le social, hein, qui sont vraiment la base du métier du CGP, mais aujourd'hui dans l'allocation d'actifs et dans la connaissance des nouveaux produits, vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi toute la partie private equity qui bien sûr devient de plus en plus importante et à disposition maintenant des clients particuliers, pas que des institutionnels. Donc s'il souhaite apporter le bon conseil à son client, il faut qu'il se forme toujours plus pour avoir une bonne connaissance de ses produits et pouvoir au mieux conseiller les clients pour leur dire oui, les cryptos c'est fait pour toi ou non, c'est pas fait pour toi.
Ça. Il ne faut pas en prendre ombrage si on dit non, à mon avis, vous n'êtes pas fait pour ce genre de sport. Juste pour justement se projeter un petit peu, ce métier de CGP, dans les années à venir, vous le voyez évoluer comment? Est-ce qu'il y a des opportunités, des tournants que la profession doit vraiment prendre pour continuer un petit peu aussi cette conquête de clients qui n'ont pas trouvé l'accueil, l'écoute, la personnalisation souhaitée dans la frange supérieure de la banque, dans la banque privée, on va dire.
Vous avez raison, il y a deux choses. Il y a la fidélisation des clients actuels et puis il y a la conquête de nouveaux clients. Là-dessus, moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur lequel ils doivent avancer, c'est l'intelligence artificielle. Ils ne doivent absolument pas penser que l'intelligence artificielle, c'est contre eux, bien au contraire, c'est eux qui doivent l'utiliser pour être encore plus performants et compétents. Ça va leur donner de la formation, ça va les aider à rédiger aussi les études à destination du client final pour encore mieux et toujours plus la personnaliser. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'ils avancent aujourd'hui sur cette partie d'intelligence artificielle. Nous, on organise très régulièrement des webinaires sur le sujet parce que je pense que c'est vraiment ça qu'ils doivent prendre aujourd'hui pour avancer.
Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous emmener dans ce monde des CGP. Donc Hélène Lamont dans Cœur de Patrimoine pour CGP Entrepreneur. À bientôt.
Merci.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on enchaîne avec une grande thématique immobilière sur laquelle on va passer un moment. D'abord avec Louis Duclary, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, cofondateur d'enchèresimmo.com. D'abord peut-être un petit mot sur Enchèresimmo, sur ce que vous proposez finalement.
Yes, alors Enchèresimmo c'est une plateforme que j'ai cofondée il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et on apporte des services aux professionnels de l'immobilier, donc essentiellement des agents immobiliers, pour leur permettre de commercialiser des biens sous format d'enchères en ligne, qu'on a appelé des ventes interactives. On n'est pas sur un format d'adjudication, on est vraiment sur un format d'appel d'offres. Et pour donner quelques chiffres, on a réalisé un peu plus de 3000 ventes sur la plateforme sur les 3 dernières années, évidemment avec une croissance tout au long de ce temps-là. Et on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 500 agences en France.
Mais c'est-à-dire que concrètement, je veux acheter un appartement, qu'est-ce qui va se passer ?
Concrètement, si vous voulez acheter un appartement, vous allez voir une pub, une annonce sur les plateformes que vous connaissez. D'accord. Ou en vitrine. Vous pourrez contacter le professionnel et simplement l'appartement, au lieu, disons, allez, je vais prendre les chiffres moyens français, au lieu qu'il soit diffusé à 250 000 euros, ce qui correspondra aux attentes du vendeur et à une vente classique pour faire un deal, peut-être qu'il sera diffusé à 200, 210, dans ce qu'on appellera un prix de première offre possible, qui permettra ensuite de monter un appel d'offres dessus. Le gros intérêt aujourd'hui de cette méthode-là, surtout d'aller pouvoir permettre d'aller trouver et retrouver de l'attractivité sur les biens, puisque l'aide est diffusée à 250, il sera diffusé à 210 et on crée un appel d'air.
Voilà donc un petit peu le cadre posé et on va bénéficier du coup de votre expertise de ce marché immobilier période de rentrée, après l'été, tout le monde repart un peu, se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, pas grand-chose, un petit peu. Vous le voyez comment ? On commence à avoir une grande partie de l'année qui est passée, donc on a l'habitude de se dire tiens, est-ce qu'on va faire 600 000, 700 000, 800 000, 1 million de transactions dans l'année ? Enfin, vous voyez ça comment ? Le dynamisme du marché, la question des prix, enfin, il y a pas mal de choses, hein. On va parler de taux aussi, mais enfin, déjà le marché, la température, l'humeur, vous la sentez comment ?
L'humeur, en fait, aujourd'hui, il y a des forces un peu contraires qui vont s'opposer. En effet, on voit les taux qui, la baisse se maintient de façon assez régulière. Donc, ça aurait tendance à donner finalement envie au marché de reprendre, puisque ça permet aux acquéreurs de pouvoir se financer, etc. etc. Maintenant, il y a un enjeu de confiance aussi, évidemment. Et l'immobilier, c'est quand même pas mal de confiance. Quand on achète, on s'endette sur plusieurs dizaines d'années. Et la question est de se dire, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue ? Donc, finalement... ces deux forces-là, pour le moment, s'opposent. Maintenant, on voit finalement une forme de stabilisation qui, peut-être, est un début de reprise. Mais voilà, en ce mois de septembre.
Et justement, vous avez évoqué la baisse des taux. On a vu la Banque Centrale Européenne, la Fed, qui devrait emboîter le pas sous peu. C'est vraiment un point positif pour le marché immobilier de voir, ça y est, les taux qui redescendent et le corollaire qui va, les banques, l'apport personnel, enfin, c'est c'est un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place après avoir peut-être pas été l'inverse, mais pas loin.
En tout cas, ce sont des paramètres qui effectivement tendent à un cercle plutôt positif pour le marché. Il faut quand même rappeler que globalement, dans l'ancien, il y a entre 25 et 30% des transactions qui sont aussi faites par des investisseurs. Donc les taux ont un impact direct parce qu'en fait, si les taux sont trop élevés, ils n'investissent pas, ils font autre chose, ils arbitrent. Donc... pour l'investissement, c'est pas mal. Ça, c'est quand même un début de renouveau. Et pour l'épargnant qui achète pour lui, hein, finalement, pour y vivre, il y a aussi un enjeu. C'est effectivement, on était plutôt dans l'attentisme, et on l'est toujours d'ailleurs, hein, côté acquéreur, côté vendeur aussi. Et ces mouvements, finalement, ont peut-être relancé un peu la machine et le volume, ce qui serait bon finalement pour tout le marché.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu le cycle économique. Qui a joué son rôle, et ça a été important. Il y a eu les banques centrales qui ont remonté les taux, etc., pour essayer de lutter contre l'inflation. Du coup, ça a un peu crispé le marché, etc. Mais il y a aussi le politique de l'autre côté. Et en France, ils n'y ont pas été avec la main morte ou avec le dos de la cuillère, parce qu'on a touché au Pinel, on a touché à tout un tas de leviers qui encadraient, entre guillemets, ce monde immobilier. On pense bien sûr au HCSF, etc. Et là, autant le cycle économique, il a l'air d'être géré par les banques centrales et on vient d'en parler, autant les politiques, on a l'impression qu'ils n'ont pas bien pris la mesure. Allez, on va prendre un mot un peu populaire, mais de la panade dans laquelle est le marché immobilier, le marché du logement.
En effet, en tout cas, ils en ont peut-être pris la mesure, mais ils n'ont pas mis en place quelconque mesure pour le moment. Donc effectivement, il y a, je pense, aussi un peu d'attente point de vue du politique pour proposer les choses. Alors, je pense qu'il y a aussi un facteur qui est que le marché doit être capable aussi de se relancer par lui-même. Finalement, à un moment donné, on ne peut pas toujours attendre du politique qui vienne avec la lance incendie. Mais effectivement, parfois, on peut aussi dire qu'on ne proposera rien et ça acte les choses plutôt que de laisser un peu le flou.
Oui, bon, on va voir hein, voilà. ce que le nouveau gouvernement viendra peut-être poser ou pas sur la table. Disons un petit mot des prix. Il y a toujours la question de se dire, est-ce qu'on est dans un marché de vendeurs, dans un marché d'acquéreurs, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les vendeurs, qui étaient un peu timides, on va dire, enfin en tout cas qui n'ont pas voulu trop lâcher sur les prix, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils se disent, bah, j'ai eu raison, et finalement les prix vont remonter ? Ou alors, est-ce que les acquéreurs peuvent garder la main ?
Finalement, c'est encore deux forces qui s'opposent, puisqu'il y en a un qui veut tendre à vendre au mieux pour lui et l'autre qui veut acheter pas trop cher. Maintenant, nous, ce qu'on voit, justement, c'est un petit peu tout le sujet d'un indice qu'on sort maintenant depuis le début de l'année, qui s'appelle GAPI, donc le Gap Index. C'est d'essayer d'aller, via toutes les données qu'on a sur Enchères Immo, on va avoir, si vous voulez, les attentes du vendeur, l'estimation du professionnel et la meilleure offre sur chaque enchère. Et cet indice, l'intérêt de cet indice, c'est d'aller suivre ça mois par mois. Et ce qu'on voit, finalement, c'est que si on reprend un petit peu de chiffres sur l'année dernière, en octobre dernier, on avait 11% d'écart entre vendeurs et acquéreurs, ce qui est énorme. Globalement, quand on a 11% en moyenne, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de transactions parce que ouais. Les discussions sont très difficiles. On se maintient maintenant depuis avril autour des 7%, ce qui est plutôt bon signe puisque généralement, quand on parle de négociation, une négociation de 5%, ça se fait bien. Et ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Et surtout, maintenant, si on essaie de positionner le professionnel au milieu de tout ça, on voit que les vendeurs ont eu tendance à se rapprocher de l'estimation, ce qui était plutôt bon pour relancer le marché, puisque ça veut dire que derrière, ils sont alignés. Et dernièrement, on voit plutôt les vendeurs qui repartent légèrement à la hausse et les acquéreurs qui se rapprochent de l'estimation. Donc, c'est aussi peut-être le fait que le professionnel navigue. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a une vraie prise de conscience des professionnels du marché réel. Et le marché réel, finalement, c'est les offres, c'est l'acquéreur. Et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut réussir toujours à convaincre ces vendeurs finalement d'aller dans le sens du marché, puisque soit ils ne vendent pas, soit forcément il faut regarder ce que sont prêts à déposer les acquéreurs. Et aujourd'hui, c'est un peu tout le risque finalement aussi de cette baisse des taux, c'est que d'un point de vue vendeur, on vous dit les taux baissent. On se dit non mais attendez, moi si le taux baisse, j'ai tant que j'attende, quoi, parce que finalement je ne vais pas baisser mon prix.
Ils vont retrouver de la marge.
Voilà, on va retrouver de la marge. Mais effectivement, ce n'est pas non plus complètement réenclenché. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être capable de discuter. Et effectivement, les vendeurs qui ont absolument besoin de vendre, ils vendront. Et ceux qui attendent, peut-être qu'il faut attendre, mais en soi, on ne sait pas ce que sera fait demain non plus.
Alors, aujourd'hui, on va puiser dans votre expérience pour être très, très pratico-pratique. Quel conseil, Louis Duclary, vous donneriez à un épargnant, à un investisseur aujourd'hui sur la problématique immobilière? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Enfin voilà, quels deux, trois petits tips que vous auriez envie de confier à un auditeur ce matin?
Finalement, moi, j'essaie quand même de suivre pas mal les annonces, les grands sites d'annonces pour voir quelles sont, sur telle typologie de biens bien précises, l'évolution. Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a un intérêt en ce moment de regarder quand même, puisque les taux sont quand même plutôt, commencent à être un peu mieux, enfin, plus en plus favorables finalement aux acquéreurs. Et on a encore des vendeurs qui sont à l'écoute. Hein. Le marché n'est pas non plus comme il y a 4-5 ans où ça se vendait en claquant des doigts. Donc, si on est prêt à négocier, à essayer de faire au mieux pour faire une vente et aussi surtout pas se priver de regarder les biens où il y aurait un peu de travaux, parce que finalement c'est sur ces biens-là qu'on peut négocier au mieux. Évidemment, le premium du premium, ça se vend, il n'y a pas de sujet.
Oui, bien sûr.
Mais il faut peut-être pas avoir peur justement de se projeter, de vouloir faire un peu de travaux, etc., ce qui souvent est bloquant. Et c'est là qu'on peut faire des choses intéressantes.
Mais le mode d'emploi, c'est toujours de sécuriser son financement, de savoir un petit peu quelle est sa capacité avant même de se mettre à rêver sur un bien.
On peut rêver, il n'y a aucun problème.
C'est sûr, rêver, c'est gratuit, on est d'accord.
Il faut rêver, c'est gratuit, c'est génial.
On
n'ira
pas forcément
maintenant,
loin.
Maintenant, effectivement, quand on veut vraiment s'y mettre, c'est quand même bien d'avoir sécurisé avec un courtier, un banquier, peu importe, savoir où est-ce qu'on peut aller. Et à ce moment-là, on peut commencer à discuter, quitte à négocier. Mais je pense que c'est quand même le bon sens.
Merci beaucoup d'être passé nous voir. Louis Duclary, cofondateur de enchèresimmo.com. À très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rejoint Aurélien Toulouse, qui est en duplex avec nous depuis Victor Immobilier, le cofondateur de Victor Immobilier. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. On va continuer à parler immobilier. On évoquait un petit peu le marché il y a un instant. Et là, on va essayer ensemble de dire un petit peu ce qu'il en est en termes d'idées préconçues que les épargnants, les Français peuvent avoir sur cet investissement immobilier. Quelles sont pour vous finalement les idées préconçues les plus courantes que vous rencontrez concernant cet investissement immobilier ?
Ouais, il y en a énormément. C'est toujours facile de trouver des freins à l'investissement. Le fait que c'est trop tard, le fait qu'il vaut mieux acheter une résidence principale, pas un investissement locatif. Le fait qu'il faut être riche pour investir en immobilier, il y a énormément d'idées préconçues. Le fait qu'il faut toujours acheter en dessous du prix du marché, quel que soit l'état du bien. Nous, c'est des arguments auxquels on fait face toute la journée. L'idée ensuite, c'est d'être capable de décortiquer le vrai du faux de ces arguments et de clarifier ça avec nos clients.
Alors tiens, justement, dans un des arguments que vous déployez là où que vous avez cité, le fait que beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche ou voire même très riche pour investir dans de l'IMO, c'est un mythe ou c'est une réalité?
Alors c'est sûr qu'être riche ne va pas vous empêcher à investir dans l'immobilier, ça va le faciliter, ça peut permettre de rattraper un certain retard, mais il n'y a pas besoin d'être riche, le tout c'est de commencer le plus tôt possible. Pour que les loyers puissent rembourser les mensualités bancaires. Mais moi, à titre d'exemple, j'ai commencé étant jeune en ayant 20 000 euros. Donc, je pars du principe que 20 000 euros ne signifie pas être riche. Et petit à petit, j'ai réussi à me constituer un patrimoine. Donc voilà, c'est ça pour mon exemple personnel. Mais on a aussi beaucoup de clients sans avoir des revenus mirobolants qui sont capables aujourd'hui, par notre accompagnement depuis 3-4 ans avec eux, d'avoir déjà 4-5 appartements dans différentes villes de France. Donc on voit qu'il ne faut pas être riche, il faut simplement être capable d'avoir un dossier bien conçu pour le présenter à la banque et d'être prudent, d'être régulier dans ses achats. Et voilà, en faisant un investissement bien pensé petit à petit tous les ans, on est capable de se constituer un patrimoine de la même façon que quelqu'un qui peut-être à la base aurait eu plus de moyens.
D'autres parlent du marché, parlent du risque en disant bah, finalement ces fluctuations de marché qui font parfois la une de la presse, etc. Eh ben, ça fait que c'est un investissement finalement risqué, l'immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée reçue ?
Oui, dans le risqué, tout est relatif. Hein. C'est sûr qu'en ce moment, on voit que les prix immobiliers ont baissé. Il faut surtout se retrouver dans une position où on n'est pas obligé de vendre aujourd'hui. Vendre aujourd'hui un immobilier serait la pire des situations. Nous, au contraire, on achète énormément en ce moment. On achète parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur du contexte. Ils ont peur de l'évolution politique. Ils ont peur de l'évolution réglementaire. On le voit avec les normes environnementales, etc. Nous, au contraire, on joue de cette peur collective pour acheter au rabais de nombreux appartements. Donc ces baisses sont une opportunité. Après, sur la notion de risque, finalement, le livret A, j'exagère à peine, mais le livret A est presque tout aussi risqué. On voit que les taux sont aujourd'hui à 3%. À l'époque, ils étaient à 0,5%. Donc, placer de l'argent au livret A aujourd'hui à 3%, on peut se retrouver dans 3 ans avec un gain de 0,5% par an. Donc finalement, la notion de risque est relative. C'est simplement, pour conclure, il ne faut pas avoir à vendre son bien immobilier au mauvais moment.
Pour autant, c'est vrai que vous prenez l'exemple du livret A. J'ai envie de dire, pour un épargnant moyen, investir, puisqu'on va partir sur des termes comparables, investir sur un livret A, c'est très simple. On va dans sa banque, on dépose sa somme sur le livret A, et puis après, on le voit apparaître sur son relevé de compte. Alors que l'immobilier, ça paraît très compliqué. Il y a l'agent immobilier, il y a la recherche, il y a la compromis, il y a la signature définitive, il y a le notaire, il y a le banquier, il y a le courtier. Enfin, on a l'impression finalement que le processus d'investissement immobilier, ça fait que c'est complexe, c'est inaccessible pour les débutants. Enfin, comment lutter un peu aussi contre ce sentiment de labyrinthe, quoi ?
Oui, bien sûr, non, vous avez raison. C'est sûr que le livret A est bien plus simple et surtout bien plus liquide pour sortir son argent. Nous, on le voit, sur 50% des clients qui nous parviennent citent cet argument de complexité comme ayant été un frein à l'acquisition immobilière. Donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet que nous traitons chez Victor Investissement, puisque l'idée, c'est d'accompagner vraiment de A à Z les clients, que ce soit de la recherche du bien jusqu'à donc chez le notaire, à la signature finale, et surtout ensuite les travaux, puisque achat immobilier rime souvent avec travaux. Et c'est sur cet aspect-là que le particulier qui a peut-être moins d'expérience sur l'immobilier peut avoir quelques soucis. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner de A à Z. Après, l'enjeu pour pas se tromper, c'est voilà, bien être accompagné, bien être renseigné sur le secteur où on investit. Ne pas investir n'importe où parce qu'on a vu des publicités, parce qu'on a vu sur Internet que la rentabilité pouvait être attractive. Il faut vraiment faire preuve de discernement, faire une analyse de marché comme on le ferait finalement sur n'importe quel investissement afin de pouvoir se positionner sur un bien de façon éclairée.
Je vais filer la métaphore parce que vous parliez du taux du livret A par exemple, et puis là vous prononcez ce mot rentabilité justement. Est-ce que cette rentabilité, elle est surestimée ou mal comprise, on va dire, selon vous ? Est-ce que les investisseurs finalement dans leur monde immobilier, dans leur imaginaire immobilier, ils négligent quelques facteurs qui pourraient justement rendre les choses peut-être plus compréhensibles, plus faciles, plus satisfaisantes aussi en termes de rendement, ne serait-ce que ça par exemple.
Oui, vaste sujet, vous l'avez dit en parlant d'imaginaire. C'est vrai qu'on a tous en tête des publicités sur YouTube ou ailleurs faisant la publicité de rentabilité à 20% par exemple ou même à 10%. Bien souvent on confond le brut et le net.
Oui, c'est ça.
C'est très très important de connaître la distinction entre les deux. À mon sens, le brut ne veut absolument rien dire. Le rendement brut, c'est les loyers attendus divisés par le prix d'achat du bien. Sauf que vous savez tout aussi bien que moi que pour louer un appartement ou une maison ou quoi que ce soit, c'est pas seulement le prix d'achat du bien. Vous avez le prix d'achat du bien, vous avez les frais de notaire, vous avez bien souvent les travaux, les frais de l'agence immobilière, parfois l'ameublement si vous louez en meublé, parfois des honoraires si vous êtes accompagné. Donc en fait, on voit que le coût complet de votre projet peut être à des années-lumière du prix d'achat.
Oui, bien sûr.
Et du coup, naturellement, ça va modifier votre taux de rendement. Donc un rendement immobilier, ça doit s'appréhender en prenant en compte l'ensemble des coûts, et ensuite, ça doit aussi se comparer en prenant en compte le secteur sur lequel vous investissez. Si vous investissez sur de la location courte durée, si vous investissez dans des villes très peu peuplées où le risque de vacances immobilières va être supérieur, évidemment, sur le papier, vous devez viser des rentabilités supérieures parce que potentiellement, vous avez un risque de vacances et du coup, vous devez avoir cette marge de manœuvre. C'est aussi quelque chose de plus risqué, donc vous devez avoir un rendement supérieur. À l'inverse, vous investissez dans une très grande ville, Paris, Lyon, Marseille, etc. L'investissement est plus sûr, et comme tout investissement financier qui est plus sûr, évidemment, la rentabilité attendue est plus faible.
On a toujours aussi un peu l'impression dans les idées reçues, ça transparaissait aussi un petit peu dans votre première réponse, c'est de se dire « Ah, mais l'immobilier, moi, je suis pas là pour investir à 30 ans, je veux gagner rapidement de l'argent, etc. » Et donc, finalement, si je suis avec mon appartement, je pourrais pas le revendre rapidement si j'ai besoin, donc l'IMO, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à un investisseur qui vous dirait ça?
C'est vrai que de toute façon, l'immobilier, plus tôt on commence, plus mieux c'est. Donc ça, c'est certain. Maintenant, si on n'a pas investi hier, il sera toujours mieux vaut investir aujourd'hui que dans 10 ans. On sait que pour l'immobilier, il faut être patient, de toute façon. Par contre, ça n'empêche pas de faire des acquisitions achat-revente. Nous accompagnons aussi sur ce volet achat-revente via notre société Victor Capital. L'idée est d'acheter des biens souvent décotés parce qu'il y a des travaux très compliqués à réaliser, décotés parce que ça peut être un très gros immeuble. Et ensuite, l'enjeu est de faciliter la réalisation de ces travaux, de découper éventuellement un immeuble en plusieurs appartements, en vue ensuite de revendre sur le marché des produits qui sont beaucoup plus simples à appréhender par le particulier, ce qui va permettre du coup de faire une plus-value. Pour reprendre aussi votre question sur la possibilité de revendre, l'immobilier est quand même assez liquide dans la mesure où on investit bien. Si on investit dans un hypercentre, si on investit dans une zone où il y a de la demande, c'est toujours facile de revendre. Le seul point, c'est que revendre à très court terme un bien qui n'a pas été pensé pour être vendu, ça peut être problématique, puisque comme je disais tout à l'heure sur la notion de rentabilité, vous achetez le bien, donc il y a certes votre prix d'achat, mais vous allez aussi payer des frais de notaire, vous allez aussi payer des frais d'agence. Ces frais sont des frais, on va dire, annexes, qui ne sont pas forcément absorbés par la valorisation du bien si vous revendez à très court terme.
Et il ne faut parler que, justement, puisque vous dites des biens qui peuvent peut-être trouver preneur plus facilement, qui soient moins importants, etc. Ça veut dire que, malgré tout, il faut rester sur l'idée d'un immobilier physique, d'acheter un vrai bien immobilier. Ou bien est-ce que tout ce qui est venu un peu avec le digital, le fait de pouvoir acheter peut-être plus facilement des parts de SCPI ou de s'intéresser au crowdfunding immobilier, etc. Est-ce que toutes ces nouvelles technologies, on va dire, sont à prendre en compte justement et permettent de lutter aussi contre quelques idées reçues sur l'investissement immobilier parce que ça rend les choses peut-être un peu plus faciles?
Oui, disons que tout ce qui est digital et les informations qu'on a disponibles en ligne, qui n'étaient peut-être pas disponibles de façon aussi claire il y a 20 ans, aident. Elles aident notamment à l'analyse de marché. Quand on veut comparer le prix d'achat du bien que l'on a en vue par rapport au marché, évidemment, c'est quelque chose de facilité par rapport au passé. Ceci dit, je le disais en introduction, il faut comparer ce qui est comparable. Bien souvent, trop souvent, les clients nous disent « Oui, mais mon bien, il est dans la moyenne du marché, voire même il est supérieur à la moyenne du marché. » Je leur réponds « Oui, et heureusement, parce que votre bien, il est au moins 50% meilleur que le marché. » Vous avez un balcon, vous avez une vue, la moyenne du marché n'a pas forcément ces caractéristiques. Donc il faut savoir comparer ce qui est comparable. C'est pour ça que moi je mets toujours des garde-fous à cette utilisation du digital. C'est sûr que c'est très bien, c'est sûr que ça facilite les choses, mais l'immobilier est et restera un métier humain, un métier qui nécessite d'avoir de la connaissance terrain pour comparer des données, pour les analyser. Et c'est le tout, surtout au final, c'est de réussir à louer l'appartement. En ligne, sur des outils, vous pouvez calculer ce que vous voulez. Si votre appartement n'est pas loué,
ça restera virtuel.
Exactement.
Merci beaucoup Aurélien Toulouse donc, et Victor Immobilier dans Cœur de Patrimoine. Très bonne fin de journée.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour terminer notre rendez-vous hebdomadaire, on va s'intéresser au contexte de marché en accueillant Eric Blaine. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Cédric.
Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être là sur Radio Patrimoine, dans Cœur de Patrimoine pour Swiss Life Gestion Privée. Quels sont les principaux éléments qu'il y a sur le bureau d'Eric Blaine en ce moment et qui permettent de lire finalement, d'appréhender le contexte financier actuel?
Alors en ce moment, c'est simple, c'est focus sur les taux. On a vraiment... Première chose qu'on regarde le matin en ouvrant ses ordinateurs, c'est déjà l'écart de taux entre le taux de la Bundesbank, le taux obligataire 10 ans allemand et le taux du 10 ans donc français. Et on regarde si cet écart a bougé ou pas pour s'apercevoir si la France est sous pression des marchés financiers, anglo-saxons en particulier, ou s'il reste dans des espaces à peu près connus. Pour l'instant, on y est encore, on est à 72 points de base si je ne me trompe pas, ça n'a pas bougé entre le moment où je suis venu ici et le moment où je suis parti du bureau. Ce qui est plus élevé que ce qui était avant donc la décision de notre président de dissoudre l'Assemblée nationale, mais ce qui reste encore raisonnable, mais on est plus haut que les Portugais et pas loin des Espagnols.
Voilà un petit peu donc ce premier critère que vous prenez en compte. Quand on parle de taux, inévitablement on se dit... Ah bah politique monétaire, banque centrale, c'est vrai qu'on a vu la Banque Centrale Européenne prendre le lead, c'est oui. une première historique. Alors bon, nous les journalistes on aime bien quand on peut mettre première, quand on peut mettre historique, on est toujours assez gourmand de ce genre de superlatif. On a la Fed qui devrait déclencher sous peu. Malgré tout, quand on les écoute, nos banquiers centraux, on a l'impression qu'ils sont contents du travail qu'ils ont opéré sur la lutte contre l'inflation, etc., qu'ils disent que c'est concret, que c'est réel, mais que ce n'est pas suffisamment convaincant. Est-ce que vous partagez un petit peu cette vision? C'est un peu ce qui est ressorti de ce grand symposium de Jackson Hole, où se réunissent tous les banquiers centraux à la fin de l'été. C'est un peu ce qui en est ressorti. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous?
Moi, il me semble qu'on peut faire une grosse différence entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en zone euro. En zone euro, la hausse de l'inflation, elle est venue essentiellement, si j'ai tout compris, par les problématiques liées au Covid de la Chine, où on n'arrivait pas à se procurer des biens qui normalement arrivent de là-bas, par bateau. On avait des goulets d'étranglement. Et puis, on avait la hausse des matières premières du fait de l'approvisionnement en énergie, notamment, et de la guerre en Ukraine. Donc, on avait une inflation qui était totalement indépendante de phénomènes domestiques. Mmh. Et donc, la hausse des taux, franchement, elle n'avait pas vraiment raison d'exister. Et elle a été pourtant très violente, donc elle a ralenti l'économie. Donc aujourd'hui, qu'on retrouve en zone euro une inflation qui va mieux, puisque les produits exportent de Chine, la Chine exporte une déflation aujourd'hui, et puis les problématiques en Ukraine sont quelque part résorbées économiquement par le fait que donc on importe notre gaz du Moyen-Orient, d'Algérie et de Norvège, fait que on a, alors c'est peut-être plus cher, mais en tout cas on a résorbé les gros problèmes de goulets d'étranglement. Donc je sais pas très bien pourquoi la BCE a monté de ses taux, et surtout, alors qu'il les monte un peu, oui, mais qu'il les monte de cette ampleur aussi rapidement, je pense qu'on était quand même quelque part dans quelque chose d'absolument anormal. Sinon, que l'on suivait les États-Unis, qui eux avaient de meilleures raisons de monter les taux, et qu'on voulait pas certainement avoir de l'inflation importée du fait d'un décalage entre le dollar et l'euro encore plus important.
Et justement, si on compare les deux, on a l'impression que la banque américaine, qui donc n'a pas pris la première décision, contrairement à ce qui s'est passé depuis que ces deux banques existent, enfin depuis que la BCE en tout cas a rejoint la Réserve fédérale, et bien on a l'impression que cette première baisse de taux, on nous avait annoncé presque un truc fantastique, le consensus était autour de 50 points de base, et puis plus on s'approche de la décision qui devrait intervenir vraiment très rapidement, il est 25, et encore, on a l'impression qu'en fait, la Fed a peur de frapper trop fort.
Ouais, là, c'est chaud, je pense. Je pense qu'effectivement, c'est une décision qui va être importante, puisqu'elle nous annonce un changement de cycle, puisqu'on ne parle pas d'une baisse des taux, mais on parle d'un programme de baisse des taux,
oui, c'est
donc
ça,
un cycle économique.
C'est la première d'une série.
Voilà. Et clairement, on a une inflation moins forte, mais l'inflation, elle est domestique, on est bien d'accord. Et ce qui fait bouger la Fed, c'est notamment que le marché de l'emploi se comporte bien moins bien qu'il ne s'est comporté précédemment. Sinon, on était encore dans une période où l'économie américaine était extrêmement robuste. Donc, est-ce qu'elle se retourne d'une économie robuste à tout d'un coup une récession ? Pas forcément quand même. Hein. Et puis, est-ce que si on baisse les taux de 50 points de base, on ne fait pas passer au marché financier une inquiétude trop importante? C'est pas forcément non plus le message qu'ils veulent donner. Donc moi, il me semble que ça se paraît raisonnable de baisser, de montrer que cette baisse de taux, elle arrive là, effectivement cette semaine, mais elle arrive à 25 points de base. Je pense que 50 points de base va faire plutôt peur au marché qu'autre chose.
Et puis il y a là-bas aussi, parce que j'allais dire chez nous également, mais des questions politiques, parce qu'aux États-Unis on est dans le gros de la campagne, hein, on votera en novembre, et puis on a aussi des soucis politiques en Europe. L'homme de marché que vous êtes, qu'est-ce qu'il se dit face à ces questions politiques? J'ai l'impression, moi, que depuis 15-20 ans, chaque fois que je pose la question, on me dit non, mais maintenant, Cédric, les marchés, ils s'en foutent du politique.
Ah, mais là, c'est tout rouge, quoi. Si on regarde le scénario géopolitique et politique, c'est tout rouge. Le monde a vraiment changé, hein, entre il y a maintenant 7-8 ans et le monde d'aujourd'hui. On voit bien que les responsables politiques sont plus du tout les mêmes. Ils ont une politique bien plus domestique et bien moins internationale. Il y a des confrontations dans tous les sens entre la Chine et les États-Unis, ou les États-Unis et la Chine, l'Europe et la Chine, et la Chine et le reste du monde, le Moyen-Orient qui est extrêmement compliqué, la Turquie qui est compliquée, la Russie qui est compliquée, la relation franco-allemande est compliquée, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie complique les choses. C'est compliqué. Je pense que là, on est vraiment tout rouge. Est-ce que l'influence sur la bourse est si importante que ça aujourd'hui? Pas forcément. Pas forcément, parce que jusqu'à maintenant, on avait des croissances économiques et on avait des bons résultats d'entreprise. Mais sur le moyen terme, ces hausses de tarifs, ça amène de l'inflation, ça fait des barrières aux acquisitions. C'est pas bon quand même, boursièrement parlant.
Ouais. Malgré tout, le marché, il a encaissé, digéré et pas si mal Trump, le Brexit, la guerre en Ukraine.
On est encore sur le court terme. Et sur le court terme, quand on regarde les différences de performance entre les États-Unis et la zone euro, on a une pelle à tarte aujourd'hui. Quand même, quand on regarde nos moyennes valeurs, elles sont vraiment en déconfiture. Quand on regarde ce que dit Total pour savoir s'il ne va pas se faire coter aux États-Unis, donc non plus en ADR, mais en situation normale, comme place de cotation, c'est quand même violent. Hein.
Alors justement, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un épargnant? Est-ce qu'il faut rester très prudent et se dire bon, j'ai peut-être une petite poche action et puis ce sera tout? Est-ce qu'au contraire il faut y aller et il faut y aller comment? Alors déjà, est-ce qu'il faut être prudent? Est-ce qu'il faut se dire bah non, tiens, là j'ai peut-être une fenêtre d'entrée? Enfin, comment est-ce que...
Il y avait donc une bonne période pour acheter des obligations, hein, puisqu'on pouvait avoir du 6% sur des obligations de reprise qui sont de très bonne qualité, qui donc à 3-5 ans nous rapportaient 6% par an. C'est plutôt bien. C'est encore le cas. On n'a peut-être pas du 6, on a peut-être du 5,20, 5,30, 5,50 sur des beaux dossiers. Mais alors, c'est pas très accessible pour le particulier. Ouais, il faut passer par des fonds. Alors, des fonds d'entreprise à maturité, donc à maturité donnée de 4-5 ans. Bon, c'est encore des choses qu'on peut faire. Hein, ça, c'est clair. C'est vrai que c'était facile aussi d'acheter du court terme, donc des sicaves de trésorerie, par exemple aux États-Unis, qui rapportaient du 5,50 avec un dollar qui montait. C'était pas mal. Bon, est-ce que le dollar va continuer à rester si élevé? S'il baisse les taux de 50 points de base, bah moins. S'il baisse les taux de 25 points de base, ça va rester assez fort. Bon, c'est pas encore complètement ridicule de placer son argent en trésorerie monétaire aux États-Unis. Et puis après, pour le reste, bah les actions étaient à des prix élevés, en particulier aux États-Unis, hein, c'est bien clair. Ils sont beaucoup moins chers.
Et encore sur une partie de la cote, parce
ouais,
que...
sur une partie de la cote, je suis bien d'accord.
On est d'accord que le contexte n'a pas changé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Si on enlève les quelques 7, 8, 9, 10 vedettes, le reste du marché est assez
beaucoup,
flat. Hein.
Beaucoup moins cher, ouais. On est bien d'accord. Et en zone euro, aujourd'hui, on a des décotes en France, hein, parce que ça a fait mal quand même depuis le mois de juin, parce que les small et mid caps sont complètement délaissés. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser pour un horizon moyen terme. On n'est pas là sur le court terme, parce que à court terme, comme la visibilité est très réduite, on ne sait pas.
Ouais,
mais c'est vrai que sur le moyen terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, aujourd'hui, des valeurs défensives, puisqu'on ne sait pas encore vraiment si les taux vont baisser fortement, si l'économie va repartir alors que les États-Unis ralentissent, alors que la Chine est bien chaos, debout, économiquement, et que la zone euro, on le voit bien, va assez mal, le moteur allemand est quand même en panne, et la France est avec un grand brouillard. Bon, donc les valeurs défensives s'imposent, hein, Air Liquide, c'est bien, quoi, hein, c'est clair.
C'est-à-dire que, justement, dans les mots que les épargnants peuvent entendre, cyclique, défensive, croissance, value, enfin, donc c'est quoi il faut raisonner comme ça sur des grands types de valeurs, ouais. Il faut réfléchir sur des thématiques, il faut réfléchir sur des secteurs, sur des zones, qu'est-ce que...
Ouais, non, mais l'emblème là-dedans, c'est se dire que même les valeurs qu'on détestait le plus, nous, gérants professionnels comme Sanofi, remontent. C'est que vraiment, il faut acheter des défensifs, c'est la pharma, celui qui trouve pas le vaccin du Covid qui monte, c'est fabuleux. Donc, Air Liquide comme valeur défensive, pour moi, dans mon esprit, s'impose. Ça fait partie des toutes premières valeurs de mon portefeuille. Dans le secteur pharmaceutique, moi, je préfère Biomérieux qui est en fait une sorte de Nespresso de la pharmacie. Ils installent des équipements et ensuite ils mettent des petites doses pour tester en fait différentes maladies. Donc, ils gagnent pas beaucoup sur l'installation de l'équipement et beaucoup sur le renouvellement des doses. Et donc, comme ils ont très bien réussi le Covid, ils ont à la fois donc beaucoup plus d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis en particulier, et ils ont augmenté donc leur capacité à mettre des doses pour tester des choses différentes. Et on voit bien que le cours de bourse est en train de s'améliorer aussi, parce que c'est mérité là pour le coup, c'est moins cher avec une belle visibilité d'un patron qui est arrivé, qui me paraît assez ingénieux, intéressant. AXA aussi est une valeur défensive aujourd'hui. C'est vrai qu'elle s'est écartée des marchés financiers, devient plus proche de tout ce qui est technique. Et donc, d'après Bubber, le président, la rentabilité de l'industrie d'assurance sur le technique et non pas que sur l'épargne est deux fois supérieure à l'épargne. Donc, dans des marchés chahutés, c'est bien d'avoir effectivement une diversification dans le secteur de l'assurance qui marche bien, avec un rendement de l'ordre de 6-7% et des PER, donc ratio sur cours bénéfice, de 10 fois. C'est pas mal. Ouais. Voilà des exemples.
Quelques exemples délivrés par Eric Blaine. Donc Sanofi, AXA et Biomérieux, exemple.
Plutôt Air Liquide, ouais. Biomérieux et AXA, ouais, ouais. Que Sanofi.
Air Liquide, AXA et Biomérieux, effectivement. Sanofi, c'était pour illustrer l'incertitude de voir un titre remonter. Merci mille fois, Eric, d'être passé dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Avec plaisir.
Eric Blaine pour Swiss Life, gestion privée. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Merci beaucoup d'être à l'écoute semaine après semaine. On se retrouve mercredi prochain.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.